Et voilà, pour moi, la victoire du terrain après. Ça, je tiens, je ne le sortais pas.
Bon, je te remercie. Peut-être Jean-Claude Bertin, parce que toi, le secteur Lansade, c'est ton secteur, d'une certaine façon, et tu as l'expérience de l'utilisation des parcs dans ce contexte.
Moi, j'ai pris un peu le texte de cadrage que vous avez tous reçu comme point de départ de réflexion. En fait, quand j'ai plus pris des notes qui ne sont pas forcément tout le temps organisées, elles deviennent à la fin. Au début, j'ai voulu faire quelques remarques sur ce texte, finalement, quelques points de départ. D'abord, première remarque, effectivement, je représente, je supposais effectivement que je représentais le secteur Lansade ici, mais ce qu'il va falloir, ce que je vais essayer de montrer, c'est que le secteur Lansade n'est pas réduit à la question des Prags, loin de là, et que le secteur Lansade englobe beaucoup plus de choses. Donc ce ne sera pas le but, évidemment, de l'intervention aujourd'hui, mais que les choses soient claires. Au niveau du recrutement des Prags, il me semble qu'il y a une ambiguïté parce que d'un côté effectivement on demande des postes d'enseignement, d'autre part les universités demandent des postes d'enseignement de plus en plus, ce qui semble exclure un travail de recherche du fait de la lourdeur des horaires, et d'autre part il y a quand même un nombre significatif de Prague et d'universités qui jouent le jeu d'offrir des décharges d'enseignement ou au moins des aménagements de services pour que ses collègues puissent se lancer dans une recherche. Et la question qui est posée dans le texte de François Poirier, c'est est-ce une bonne façon de répondre aux besoins d'enseignement de la langue dans les filières? Je vais essayer de faire un petit peu quelques éléments de réponse proposés. Alors déjà, est-ce que c'est une bonne façon de répondre? Est-ce que ce n'est pas des arts sans allocation? Je crois que ce n'est pas sur ce plan-là que je vois les choses, parce que les failles, ou plutôt les agrégés dans le secondaire, quand même, malgré l'évolution, il y a un volet très important de professeurs agrégés et de certifiés qui sont en secondaire. Et tous ces collègues-là, quand ils veulent se lancer dans une recherche, ils ont d'énormes difficultés du fait de la rigidité du système secondaire par rapport à la recherche. Ils ont d'énormes difficultés pour avoir la possibilité d'aller dans des colloques, d'avoir du temps libre, etc. J'y suis passé, donc je peux vous dire que c'est vraiment très difficile et qu'on est forcé de jouer sur des choses qui sont un peu limites pour avoir toutes ces autorisations. Donc, les allocations qui sont proposées, vu la hauteur financière de ces allocations, ce n'est pas une solution pour la plupart des agrégés ou des certifiés qui ont déjà un peu d'expérience dans le secondaire. Autrement dit, la seule façon pour eux d'opérer une reconversion et un virage dans leur carrière, c'est bien les emplois de PRCE et de PRAC. Donc on a cette ambiguïté sur laquelle on fonctionne sans arrêt. C'est un moyen aussi pour permettre à des collègues de se lancer dans la recherche.
Oui.
Et c'est vrai que dans le secteur Lansad, on a une caractéristique par rapport à d'autres secteurs, elle est que bien souvent, la moyenne d'âge des gens qui se lancent dans des thèses, ou le parcours de ces gens-là, est beaucoup plus élevé, et le parcours est beaucoup plus divers que le parcours beaucoup plus linéaire des gens qui font une thèse dans les disciplines plus traditionnelles de linguistique. Donc on a cette première caractéristique. On pourrait y revenir tout à l'heure, mais je lance des pistes. Il me semble qu'il y a deux problèmes. Il y a un problème à l'entrée. À l'entrée, c'est-à-dire la porte d'entrée qu'on va offrir à tous ces enseignants, et puis comment on va les former à ces postes qui leur sont offerts. L'intérêt des chiffres qu'on a eus par nos deux collègues, c'est qu'ils précisent vraiment beaucoup, en quantité et en qualité, à la fois le nombre, l'orientation, Jean-Louis l'a dit, on a une très forte proportion des postes qui sont maintenant ciblés secteur Lansade. Oui. Et secteur Lansade, c'est clair pour tout le monde, je pense. Oui. Non, Lansade, ce sont les langues pour spécialistes d'autres disciplines. Il y a une époque, ça s'appelait les non-spécialistes, mais en fin de compte, ce sont des gens qui sont spécialistes, simplement pas spécialistes des langues. Donc ces postes, si on regarde un peu les chiffres qui nous ont été fournis, il semble y avoir une homogénéité parce qu'il y a beaucoup de gens, mais en fin de compte, il y a énormément de profils différents. Il y a beaucoup de gens qui interviennent dans le domaine de ce qu'on appelle l'anglais de spécialité en tant qu'objet, et la part du lion, là, c'est l'anglais des affaires, l'anglais business English, l'anglais économique, les différentes appellations, on tourne toujours autour de ce concept-là. Il y a beaucoup de formations également dites non spécialistes ou Lansade selon les universités qui regroupent des publics très divers, très hétérogènes. Ce qui veut dire qu'on peut très bien enseigner dans le secteur Landsat sans enseigner la langue, l'anglais de spécialité. Ça, c'est aussi une distinction qu'il faut garder à l'esprit. On peut avoir des gens, souvent dans les branches SHS, dans les branches scientifiques, dans les branches mathématiques, on va avoir vraiment des publics très diversifiés, et on n'a pas toujours l'anglais de la discipline. Hein. Ce qui pose un problème de formation, et c'est là où je veux dire. Et à l'inverse, on peut avoir des gens dans des sections, dans des départements d'anglais pour spécialistes, à qui on va enseigner cette notion d'anglais de spécialité, tout simplement parce que c'est maintenant accepté comme un objet à l'intérieur de l'anglistique, des études anglaises de façon générale. Donc le paysage n'est pas du tout homogène, et vraiment il convient de garder tout ça à l'esprit. Donc pour me faire arriver, parce que j'ai promis d'être court, nous avons d'être court, un problème de formation qui me semble double. J'ai entendu parler des fois de demandes, et puis c'est évoqué ici, d'options, une nouvelle option à la navigation par exemple, pour permettre d'enseigner. Je ne suis pas sûr, personnellement, que ce soit l'urgence. Je pense que c'est un terme auquel il faudra penser très tôt, parce que quand on regarde un peu le recrutement aussi des étudiants, aux différents niveaux des étudiants anglais, on s'aperçoit qu'il y a une crise de recrutement dans beaucoup d'universités. Donc il va falloir ouvrir, et c'est notre intérêt à tous, d'ouvrir les portes, parce que aussi il y a des passerelles entre le secteur avançable, entre l'objet anglais de spécialité et les autres disciplines. Donc on a tous finalement à y gagner. Mais le problème que je vois, c'est que si on décide de commencer par la fin, j'allais dire, par l'agrégation, on va se trouver dans une situation où, sur le plan anecdotique, par exemple, moi je me trouve au niveau d'un master, où j'ai réussi dans mon université au Havre à faire intégrer la didactique de l'anglais, certains modules de didactique de l'anglais dans un master, mais il n'y a pas d'enseignement préalable. Ce qui veut dire que les étudiants qui choisissent ces nouvelles disciplines, ils sont confrontés à deux choses. Un, la nouveauté et le manque d'informations sur ce que représente l'anglais de spécialité ou la didactique de l'anglais dans ce cas-là, et deux, une mise au niveau très rapide par rapport à leurs collègues en littérature ou en civilisme ou en linguistique, parce qu'en très peu de temps, ils vont avoir besoin d'avoir les bases et monter à un niveau de réflexion suffisamment acceptable pour ce niveau master. Ce qui veut dire que la position, finalement, moi j'ai tendance à préconiser, mais j'ai contacté un certain nombre de mes collègues, on est à peu près tous d'accord, ce n'est pas au niveau de la grecque. Il faut commencer à élargir les formations dès le niveau licence, de façon à montrer que dans les études anglaises, il y a bien de nouvelles pistes qui s'ouvrent, donc on peut susciter des nouvelles vocations, et par ce biais-là, donc avoir des gens. Et je termine, ça a un corollaire. Qui va enseigner à ces nouvelles formations ? Il faut nécessairement, comme dans toute autre discipline, que ce soit des enseignants chevronnés, qui aient été formés, qui aient travaillé, qui aient réfléchi, qui aient fait des recherches dans le domaine. Donc ça veut dire consolider la position des maîtres de conférences. Donc ça veut dire que cette évolution des profils que l'on voit au niveau des Prague, bon, il y a déjà une évolution significative dans les dernières années, mais il faut qu'elle continue de façon à répondre à ce besoin de formation. Et au niveau des masters, au niveau grand professeur, là aussi, il y a besoin de continuer. Je dis bien continuer, parce que le mouvement est quand même en route dans notre pays, on va dire dans notre section en particulier, c'est important. Donc il faut prendre, à mon avis, les choses des deux côtés. La formation et la continuation des formations des enseignants et des enseignants-chercheurs, et au niveau étudiant, d'apprendre beaucoup plus tôt.
Bien sûr. Oui.
Voilà, j'ai peut-être été un peu long, je m'excuse, mais je voulais en arriver un peu à cette démonstration.
Marie-Pierre Pouli.
Oui, donc je suis prac d'anglais à l'IEP de Toulouse, mais ce n'est pas ce titre exact que j'interviens, parce que en fait, je suis engagée depuis l'an dernier dans une thèse de sociologie qui a pour objet la genèse sociale et la structuration d'une discipline. Donc c'est la question sociologique que je me pose, et il se trouve que je travaille sur l'anglais parce que je suis agrégée d'anglais, c'est la discipline que je connais le mieux. C'est de ce point de vue-là que je parle. En fait, j'ai suivi les préceptes de Marcel Mauss qu'on a cité hier, qui est avant de commencer la recherche, il faut faire un inventaire systématique de la maison qu'on étudie de fond en comble. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à recueillir des informations quand la maison est grande, l'instrument statistique est souvent le plus approprié. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à faire quelque chose dont je me suis aperçue qu'il était aussi réalisé par des gens de la maison étudiée, qui sont ceux qui s'intéressent à l'avenir de la profession. Donc, comme c'est un travail assez ingrat, long, fastidieux, je me suis dit, tant qu'à faire, autant qu'il serve. Et donc, j'en ai mis une partie à disposition. Alors, c'est en partie des choses qui ont déjà été dites. Peut-être que je peux préciser un tout petit peu plus sur le profil des postes. J'ai suivi à peu près le même raisonnement que Jean-Louis Duchet, mais je l'ai fait sur les 5 années précédentes. Les 5 années précédentes. Donc, on retrouve la même chose. J'arrive aussi à un chiffre un pourcentage de 72% des postes à partir du type d'établissement où ils se trouvent, qui correspondent a priori de ce qu'on peut déduire de l'établissement à des postes du secteur Lansane, sans qu'on en soit absolument sûr. Et ça ne veut pas dire que le pourcentage restant soit hors Lansane, on n'en sait rien. C'est-à-dire que le pourcentage restant, c'est les IUFM et c'est les facs de lettres où il n'y a pas de fléchage. Donc on peut supposer que c'est dans des départements d'anglais, mais ce n'est pas sûr. Alors, comme il y a 2000 Prague et PRCE, ce serait très difficile de savoir effectivement ce qu'il en est. Il faudrait une enquête.
J'ai mis vos chiffres au tableau. Là.
Ah oui, bon, pardon. Excusez-moi.
Non, mais c'est pour que vous sachiez, vous pouvez y faire référence. Hein. Voilà. Donc, il y a l'équilibre entre les deux corps, à peu près. Oui. Et voilà, puis j'ai montré la pyramide que vous m'aviez envoyée aussi tout à l'heure.
Voilà. Alors, sur ce point, d'ailleurs, c'est une question qui n'était pas posée au départ. Mais qui a animé la liste de la SAES, donc ça m'étonnait qu'elle ne soit pas posée, c'est celle des Prague et des PRCE. Est-ce qu'il y a une tendance à recruter plus de PRCE? Est-ce que le fait que les PRCE à l'université puissent faire 18 heures par semaine, contrairement aux Prague qui n'en font que 15, et donc qui ne peuvent pas remplir théoriquement leur service, est-ce que ça a une incidence sur les recrutements ou pas? Je ne sais pas.
Ça, c'est trop tôt pour le savoir.
Enfin, moi, je sais pas, mon expérience de recruteur, président de commission ad hoc et directeur de l'UFR, c'est qu'on prend le bon profil et on ne se soucie pas du tout du corps d'origine. J'ai recruté des gens pour le Carrel de Royan, pour les organismes très très pointus comme ça. On prend, je ne me rappelle pas avoir pris un PLP. Parce que les PLP peuvent aussi, professeurs d'école, des écoles. Donc on peut, c'est vraiment le profil qui l'emporte.
Je suis absolument d'accord avec toi.
Et dans quelques cas, je dirais même que le profil d'agrégé est presque une contre-indication, parce que la spécialisation paraît trop, déjà du fait des options d'agrégation, de centrer sur une des grandes disciplines de recherche qui nous sont familières et qui écartent les gens d'une préoccupation en salle. Mais ça dépend, ça dépend. Ça dépend, c'est très variable. Mais disons que il n'y a pas de prise en considération du corps qui soit vraiment...
Mais pour l'instant, non. Mais effectivement, l'application de l'END, la semestrialisation généralisée, le calcul des semaines, fait que les règles qui s'appliquent aux agrégés font qu'ils sont en sous-service, de fait.
Oui, c'est voilà. Réglementé.
Et donc, à partir de...
60 heures, c'est bon sur 24 semaines.
Non.
Mais oui, mais ça, le tribunal administratif régule les choses dès que les gens portent
main. Et donc la question qui se pose, c'est tant que ce double plafonnement pour les agrégés subsiste et que le LMD est ce qu'il est, peut-être qu'on va évoluer vers un rejet des Prague au bénéfice des PRCE.
Oh,
auquel le double plafonnement. Non, ça, on va voir.
Entre 1984, il ne se frappe pas pour ça.
Si. Si. On va voir, mais ça c'est une question pour plus tard. Attendez, peut-être on va finir François, si tu veux bien, on va finir notre petit tour des invités de la table ronde. Marie-Pierre n'a peut-être pas fini de dire ce qu'elle avait à dire, et ensuite on va passer la parole à Wilfried Rothschild.
Donc ensuite sur la spécialisation qu'on peut aussi saisir, pas du point de vue des établissements, mais des postes fléchés qui ne représentent que la moitié des postes publiés, mais donc sur cet ensemble de la moitié des postes publiés. Bon, j'aurais dit à peu près la même chose, mais pour être plus précis sur les profils effectivement demandés, si on regroupe ce qui est profil technique et scientifique, on a le poste le plus important, 33% des postes fléchés. Commercial et LEA, anglais des affaires, LEA, 28%. Et donc là, c'est vraiment les deux gros postes. Ensuite, IUFM, 14%. Sachant que les UFM flèchent quasiment systématiquement, donc c'est pas, ça ne veut pas dire 14% des postes, mais 14% des postes fléchés qui sont quasiment tous, les postes d'UFM étant quasiment tous fléchés. Sciences humaines, droit, infocom, alors c'est quand même intéressant d'avoir ça en tête, parce que peut-être que par rapport aux spécialités de l'agrégation, on peut supposer que c'est le goût le plus proche des agrégés. S'ils voulaient faire de l'anglais de spécialité, ils peuvent avoir envie de faire des sciences humaines qui se rapprochent de la civilisation. Bon, il y a très peu de postes. C'est 9% en cherchant anglais juridique, sciences humaines, infocom. Et l'autre, tout ce qui est autre, qui peut être aussi bien l'anglais du sport, des centres de langue, etc., c'est 15%. Et de linguistique. Hein. Pour ce qui est fléché, il faut vraiment avoir ça en tête. Technique, scientifique, commerciale, c'est le gros des postes.
Oui. C'est important, ça, en fait. Au début des chiffres, c'était des pourcentages.
Alors, c'est pour. J'ai essayé de recouper les gros postes de profil technique et scientifique. Alors, ça va être aussi bien l'anglais technique, anglais pour ingénieur, anglais médical. Souvent, ils disent simplement, même ils flèchent anglais technique et scientifique. 33% des postes fléchés. Commercial et LEA, 28%. Sachant que c'est plus souvent, ce qui est fléché, c'est plus souvent commercial. Hein. Oui. Et qu'on sait aussi que dans les départements d'anglais ou de lettres, les prags sont souvent appelés à faire LEA, mais ce n'est pas inscrit dans le fléchage.
Cette année, il y avait même 12 fléchés LEA.
Cette année.
12 fléchés.
Oui, LEA. Ça a augmenté. Oui. Aussi. Donc. Pour ce qui est de l'augmentation, c'est difficile de dire, c'est un peu chaotique, hein, les courbes.
Oui.
On sait aussi que les IUT flèchent très peu, mais on est presque sûr que c'est de l'anglais de spécialité.
C'est IUT.
C'est
le département.
Le fait que les
oui, c'est fléché par le département de rattachement, tout simplement.
Voilà. Simplement, j'avais deux autres choses à dire qui viennent... de mon travail historique. En fait, j'ai travaillé sur les groupes qui ont promu, défendu les langues vivantes au XIXe siècle. Donc, c'était juste deux idées qui peuvent peut-être alimenter la réflexion. Les groupes qui ont défendu les langues vivantes au XIXe siècle les défendre, c'est généralement, presque systématiquement, sous leur forme la plus pratique, c'est-à-dire la plus ajustée au monde économique. Et dans ce contexte, les agrégés sont toujours suspects de vouloir faire autre chose que d'enseigner une matière utile pour la croissance économique. Alors, la chose qu'on retrouve le plus souvent, c'est l'injonction par aussi bien des universitaires qui sont d'une discipline plus élevée dans la hiérarchie que des chambres de commerce, des hommes politiques, etc., une injonction qui réclame que l'agrégé de langue soit strictement ajusté aux besoins pratiques. Et même, en fait, le rêve, l'idéal, c'est remplacer l'agrégé de langue soit par un billet de train pour aller à Londres, soit par un anglophone, alors une femme aussi, une femme qui ne viserait pas plus haut que sa position, ou un anglophone qui n'ait pas les goûts, ni les moyens économiques d'ailleurs, plutôt précaires, ou des intérêts intellectuels au-dessus de sa position. Et donc, il me semble qu'une des questions que la discussion pose, c'est comment conserver, pour conserver l'autonomie de la discipline, c'est-à-dire la capacité à déterminer de manière autonome, sans ces injonctions issues du monde commerciales, qui ne sont pas mauvaises, mais la question de l'autonomie des études anglaises, ça implique partiellement de résister à ces injonctions, en tout cas de les avoir fortement en tête. La deuxième chose qui semble émerger, c'est que l'anglais, c'est une discipline dont la structuration originelle et ultérieure est extrêmement liée au concours de recrutement du secondaire, des enseignants du secondaire. Il y a d'autres disciplines qui fonctionnent comme ça, qu'on pourrait appeler des disciplines d'agrégation. Et les travaux de nos collègues européens sur l'enseignement de l'anglais vont dans le même sens. Ils semblent suggérer qu'il y a un invariant, il y en a plusieurs, mais en tout cas que la discipline du supérieur, les études anglaises, prend son essor et sa forme fondamentale à partir du moment où l'État met en place un concours de recrutement centralisée, nationalisée, qui garantit, centralise la formation des professeurs. Donc la forme actuelle de l'enseignement, de la discipline du supérieur, elle est liée à ça, et elle est très fortement, la forme est très dépendante de l'agrégation dans le supérieur. Et donc ça aussi, ça me semble suggérer que dans cette discussion, il faut avoir fortement en tête les implications de la professionnalisation de l'agrégation sur les études anglaises elles-mêmes. Ouais, bon, c'était deux pistes que je
permettais de... Ça nous ouvre des horizons qui vont nous permettre d'organiser encore plusieurs tables rondes avant même le prochain congrès de la SAES. Hein, Wilfried.
Oui, rapidement, je dirais, il y a quand même une chose à se parler, c'est le concours du CAPES, puisqu'en fait, il y a autant de PRCE que de Prague. Donc, si on parle de réforme de l'agrégation, enfin, éventuellement d'une épreuve d'agrégation, il faut également que cette épreuve soit imposée au CAPES, puisqu'il y a autant de PRCE. Et c'est parce qu'il y a une différence d'une épreuve imposée au CAPES qu'il y aura en amont un changement d'enseignement donc au niveau de la licence. Je crois que c'est de... En effet, c'est parce qu'il y a des nouvelles épreuves au CAPES qu'on va enseigner ces épreuves-là, ces disciplines-là en licence, et inversement, on a besoin de réfléchir aux deux, en fait. Pas simplement se dire il faut modifier quelque chose à la grègue, il faut à la fois penser au CAPES, et puis c'est comme ça aussi qu'on pourra peut-être avoir enseigné d'autres disciplines en licence. Le problème qui se pose, c'est que ça va un peu... les profils sont tellement variés, c'est entre le commercial et le technique, entre le commercial et le scientifique, quel est le point commun? Comment peut-on faire pour enseigner quelque chose au niveau de la licence, de l'anglais scientifique, de l'anglais commercial? Quelle serait la forme de cet enseignement? Ça, il faut réfléchir. Donc, quelle serait la forme d'une épreuve nouvelle au CAPES à l'irrigation? C'est aussi Donc, le CAPES est quand même très figé. Enfin, on a du mal à faire... déjà, les littéraires veulent bien sûr que la littérature soit représentée, soit majoritaire, ce qui est plus le cas maintenant, que la civilisation le soit, les linguistes aussi, les phonéticiens également. Il y a maintenant une épreuve qui a fait ses preuves, c'est l'épreuve de HP à l'agrégation et l'épreuve de mise en relation au CAPES. Vous savez, si on a deux documents CAPES, trois documents...
HP, ça veut dire hors programme, ça ne veut pas dire haute fidélité.
Hors programme, l'agrégation. C'était une épreuve qui était... controversée, il y a eu pas mal de débats autour de cette épreuve. Finalement, les gens qui l'ont pratiquée, qui l'enseignent, trouvent que c'est une très bonne épreuve, donc il n'y a aucune raison de la remettre en cause. Donc chacun défend bien sûr sa discipline, et moi je trouve que c'est, je te fais ouvert à une discussion, mais évidemment, mais il faut penser à la forme de cette épreuve, et quel type d'anglais, est-ce que c'est l'anglais scientifique, commercial, les deux, juridique, aussi juridique, il y a le médical également qu'il faudrait représenter, et je suis tout à fait sûr que c'est bien qu'il y ait en effet des enseignements de ce type-là en licence. Mais sous quelle forme?
Ok, bon, maintenant, je vais dire la parole à qui la demande, mais Françoise Trichet avait pris une petite longueur d'avance, elle avait levé la main désespérément tout à l'heure.
Les textes sont clairs, donc quand c'est pas respecté, c'est attaquable.
C'est pas très clair.
Oui.
Il y a eu. Bon, en gros, c'est très simple, c'est 384 heures, mais il y a un plafonnement hebdomadaire.
Alors, pour les agrégés, mais pas pour les certifiés.
Si, pour les certifiés aussi.
Oui,
sauf qu'il n'y a jamais d'année universitaire assez longue que pour que les certifiés, ça explose le compteur.
Vrai.
C'est-à-dire que si vous prenez l'année universitaire banale que nous connaissons, nous, dans les facultés de lettres, et vous connaissez bien les chefs d'établissement ou anciens chefs d'établissement présents, si on a 24 semaines, un agrégé sur 24 semaines, il ne peut pas faire plus que 360 heures. Point. Hein, il a le droit d'invoquer un écrêtement qui est réglementairement prévu par non seulement les textes, mais la jurisprudence.
Bon. Ça fait 360
heures. Sur 24 semaines, oui. Vous multipliez 15 par 24 semaines,
oui.
Vous comptez bon.
La seule solution consiste à demander à l'agrégé de faire d'étaler son enseignement sur plus longtemps que 24 semaines. Aura-t-il des étudiants en face de lui? Ça, c'est une question.
Voilà.
Bon, monsieur.
Oui.
C'est 15 heures pour les uns et 18 heures pour les autres. Alors, si vous avez une université qui concentrerait en beaucoup moins de 24 heures, le certifié aussi serait plafonné à 18 heures. Seulement, vous prenez 24 heures.
24 semaines.
24 semaines multipliées par 18, ça reste dans le cadre du service d'un certifié. Il n'y a pas de problème. Donc, le certifié fait de fait toujours pour 184 heures, car il n'existe pas d'université qui est une année universitaire inférieure à 24 semaines. Voilà. C'est ça l'explication. Hein? Donc, c'est ça la situation. Mais bon.
Oui. Pardon. Oui, oui, je vous vois. Je vous reconnais maintenant. Albert Ham, qui est ancien président d'université.
J'ajoute un élément que dit Chézeau, je suis tout à fait d'accord, parce qu'il y a aussi une circulaire qui, à ma connaissance, n'a jamais été abrogée, qui permet éventuellement de demander à l'enseignant de faire une partie de son service dans un établissement voisin. Et donc on peut jouer sur les différences de calendrier universitaire, et je sais que dans mon établissement, à deux ou trois reprises, des UFR ont mis en fait les enseignants en train de certifier en position de choisir, ou bien ils acceptaient d'aller au-delà de leur service hebdomadaire, où ils acceptaient d'aller un petit peu à l'université voisine, et évidemment, ils acceptaient de rester sur place. Donc,
alors,
c'est pas aussi facile que ça.
Non, mais moi, voilà ce que je vous propose, parce que c'est d'arrêter la discussion sur cette question sur laquelle nous n'avons pas de réponse claire et ferme, parce qu'il y a des jurisprudences de tribunaux administratifs dans les régions. Il n'y a pas de jurisprudence du Conseil d'État encore. Il n'y a pas de jurisprudence nationale. Donc on est dans un flou. Ce qui est vrai à Paris ou à Poitiers n'est pas vrai à Strasbourg ou à Grenoble. Voyons plus tard, s'il vous plaît. Et essayons de garder la discussion sur le fond du problème, qui est l'évolution du statut des anglicistes en général, finalement, à travers ça, dans l'enseignement supérieur. Et donc la question de la formation, de l'évolution des formations d'anglais que nous proposons. Alors, oui, madame.
J'ai un problème, je suis prête d'anglais dans la faculté de droit de l'université de Montreuil. Donc je suis du style jeune génération, c'est-à-dire que je suis sortie de la formation et après mon stage, j'ai été recrutée directement à l'université. Donc j'ai été confrontée à la situation de l'enseignement à créer, de toute pièce, et qui n'était pas en lien direct avec ce que j'avais appris avant. Ce qui est pour quelqu'un qui est motivé, je trouve ça super,
c'est bien,
parce que finalement c'est quelque chose qui est tout à découvrir, tout à construire. Par contre, je dirais qu'on a fait ça en équipe, ça nous a quand même pris 6 ou 7 ans avant d'arriver à avoir un programme d'anglais juridique sur l'ensemble des programmes de licence. Donc c'est quelque chose qui est long, qui est énorme, et il faudrait pouvoir essayer de permettre à des prags qui rentrent dans des UFR comme ça, leur donner la possibilité de continuer leur carrière dans ce genre de filière, parce que ce qui va se passer, c'est que les 2 sur 3 arrivent en fin de thèse. On n'a pas fait une thèse pour des copinettes. On a très envie de rester dans l'UFR où on est. On ne sait pas du tout si on va pouvoir rester sur des dates de conférence. Donc ce qui veut dire que ce qu'on a mis en place pendant 6 ou 7 ans, on serait ravis de pouvoir continuer à le faire, on serait ravis de pouvoir même aider les prags qui viendraient rejoindre notre équipe. Et financièrement, on ne sait pas du tout si ça va être possible. On va voir dans l'année qui arrive, dans les 2 années qui arrivent, si c'est possible. Et on voudrait pouvoir essayer d'utiliser notre expérience pour justement former les collègues qui arriveraient. Parce que quand on va partir, je ne sais pas si les gens qui vont nous succéder arriveront comme ça à suivre.
Paul Volsic.
Je voudrais rajouter ce problème de qui va dépendre du principe que l'utilisation, même si on comprend pourquoi les universités ont besoin d'utiliser mieux le potentiel d'enseignement, toute la mission d'enseignant dans le supérieur, c'est à la fois d'être enseignant et chercheur. Et donc, je voudrais rappeler cette contrainte. Et deuxièmement, ça concerne le problème de la structuration de la discipline et de l'angle des spécialités notamment. Je vais quand même rappeler, parce qu'on a dit, vous avez dit, et c'est très intéressant, que c'était le concours qui crée un peu quelque chose qui structure, mais en même temps, on a vu tous, on a tous vécu cette réforme, la mise en égalité, ce qui est tout à fait souhaitable, des trois options, civilisation, littérature et linguistique, mais qu'il y a eu quand même en amont au moins une vingtaine d'années où les civilisationnistes et les linguistes ont pu penser, structurer leur propre champ. Alors que pour l'anglais spécialité, on a des pistes, mais je crois qu'il faut vraiment aller vers les spécialistes d'anglais des spécialités pour qu'ils nous expliquent, nous exposent, nous cartographient en quelque sorte la discipline ou l'état de la discipline actuellement pour qu'on puisse penser en termes de formation de type lexicographique, lexicologique, etc. Et malheureusement, ça prendra un petit peu de temps. Mais je crois qu'en tant que SAS, on bénéficie de la présence des spécialistes dans une spécialité dans le moment. Et je crois qu'il faut vraiment les encourager vivement. Hein. Donc je suis à nous aider, à nous épauler.
Oui, il y a madame qui a demandé la parole depuis quelques temps.
Je suis Anna Diafou, je suis à la maison des langues de la Faculté de Nice. Et je vais parler juste très rapidement par rapport à ma propre expérience, parce que j'ai fait 10 ans à l'Université de Marseille. Ensuite, j'ai fait un court passage par un département LSE à Toulon pendant 2 ans, dans un département anglais. Et maintenant, je suis dans la maison des langues qui est en niveau 27. Et aussi, j'ai toujours été syndiquée, enfin, c'est un sujet où on a beaucoup abordé cette création des postes de travail. Et aussi, je suis au conseil d'administration de la fac de lettres, donc j'entends aussi ce point de vue de productivité dont on a besoin. Ce que je trouve de très embêtant avec ce poste de Prague et de PACE au départ, c'est que justement, il y a cette énorme dissociation entre l'enseignement et la recherche. Et dans mon expérience, en tant que Prague, donc c'était surtout dans le département LSE, où je faisais des cours pour spécialistes, on avait même fait des cours de CAPES et aussi des cours de LLA. J'ai dû faire énormément de recherches, ne serait-ce que pour faire ces cours. Aujourd'hui, à la Maison des Langues, je fais des cours à des formations aussi diverses, mais c'est tout dans mon service, c'est pas des heures sup, à ACL, donc communication, psycho, histoire, géo, ethno, sociaux, voilà. Ensuite, donc ça demande beaucoup de recherches parce qu'il n'y a pas de manuel déjà tout prêt pour la plupart de ces spécialités. Je trouve que on est corvéable à merci, enfin, c'est dans mon expérience, parce que par exemple, quand je suis arrivée à la maison des langues, il n'y avait que des Prades et des PACE, puis un poste de maître de conférence a été créé, et le maître de conférence qui est arrivé, la première chose qu'il a dit dans la première réunion, c'est « Moi, je suis maître de conférence, donc je fais cours qu'en master. » Alors ça, je ne sais pas pourquoi. Mais ensuite, maintenant, il est directeur de la maison des langues, et cette année, par exemple, il y a un master qui a voulu avoir une formation d'anglais tout d'un coup en 15 jours, donc il m'a presque obligée parce que je n'avais pas fini mon service justement, donc il m'a dit « Est-ce que tu peux prendre ce cours de master ?» Je disais « Mais je suis de Prague, enfin je donc j'ai déjà suivi un cours des masters, et donc du coup, c'était psychologie du travail, je ne sais plus quoi. Et d'autre part, parfois c'est très difficile, moi je me bats pour appliquer ce truc de 15 heures par semaine. Bon, à l'IUT c'est difficile parce qu'il y avait beaucoup moins de semaines, à Toulon, je ne suis plus, mais à la Maison des Langues, c'est mes autres collègues dont je fais partie de ce groupe de Maison des Langues qui me disent « Oui, mais on va lui demander de revenir faire des cours en août pour l'université d'été. » Si on nous a tout ça, si on nous dit qu'on ne peut faire que 360 heures. Donc moi, c'est même pas une question. J'ai la pression de mes collègues qui ne veulent pas, si moi je demande ça et que je le tiens, ils ne veulent pas de revenir faire en août, que je comprends. Et donc je trouve, moi, ma vision des choses, c'est que justement, on fait beaucoup de recherches, même si on ne fait pas de thèse à côté, quoi. On fait déjà beaucoup de recherches, comme vous dites, pour préparer ces cours, mais on est en même temps très dénigré, je trouve, par les autres, par les départements LC. Enfin, je dis ça en général, c'est certains individus, quoi. Ou même par le monde de conférence, par exemple, qui considère que lui ne peut pas faire plus en L3.
Il faut qu'on vous nomme un prof pour que je vous
dirigez tout ça maintenant.
Je pense que je veux dire aussi, c'est que je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse aussi à. Enfin, c'est déjà la politique du ministère de l'Éducation nationale depuis plusieurs années, mais j'ai vu des interviews de Nicolas Sarkozy qui disait que pour lui, enfin, il ne voulait pas que les formations qui ne mènent pas à un emploi soient rémunérées par le contribuable.
Oui. Lettre classique et pas le
plus. Lettre ancienne, il a dit ancienne.
Non, il a dit
en général.
La politique, ça va être de plus en plus justement de prendre des causes de prêt, enfin de second degré, pour justement rentabiliser et aussi pour faire cours dans des formations qui sont plus professionnalisantes.
Jean-Claude Bertin a demandé à intervenir, ensuite Patrick Chaison, ensuite à nouveau Françoise Trichet.
J'ai probablement demandé plusieurs fois la parole, parce que sinon je vais la monopoliser pour essayer de répondre aux différentes questions. Bien, hein. Quelques points peut-être rapides d'abord. Le poids de la représentation par les concours et par l'image qui est donnée par les concours, je crois qu'effectivement c'est fondamental, on ne peut pas y échapper. Quand on parle de possibles options nouvelles à la délégation au CAPES, et je dis bien au CAPES parce que l'épreuve professionnelle n'est pas dans l'esprit ce à quoi on pense quand on pense didactique et non pas pédagogie et anglais spécialité, c'est totalement différent. Donc il y a bien cette idée de poids. C'est logique, pourquoi ? Parce qu'à terme, il faut bien qu'il y ait cet affichage pour les étudiants, qu'ils sachent où ils vont quelque part dans leurs études. Mais en même temps, et là Wilfried a totalement raison, il y a ce besoin de formation en amont, de qui va le faire, de ce que ça veut dire. Ce qui veut dire, première précision, qu'on ne peut plus, le danger de la représentation que l'on fait bien souvent par les profils, et qui est utile, hein, attention, mais le danger c'est qu'elle mène à une atomisation quelque part des profils. Il n'y a pas une formation à l'anglais des affaires, à l'anglais juridique, à l'anglais... C'est comme si on disait qu'on fait une formation à Swift, à C.B. Snow, à Shakespeare ou à qui vous voulez d'autre. Non, on fait une formation à la littérature anglaise, ou vers la littérature anglaise. On est exactement dans le même cas quand on parle d'anglais spécialité. Au-delà des spécialités ou des objets professionnels et des cultures professionnelles ou spécifiques auxquelles on s'adresse, il y a un certain type de philosophie, de méthodologie, etc. qui est mise en avant. Et c'est à ça qu'il faut arriver à former les gens, non pas à tel ou tel anglais. Ce qui permettrait en même temps d'éviter la confusion, mais qui est logique, je veux dire, dans l'état des choses, la confusion trop souvent rencontrée, entre la notion de langue de spécialité telle qu'on la conçoit et telle qu'on la voit souvent réduite à la notion de terminologie ou anglais professionnel. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est peut-être aussi là où on pourrait faire une distinction entre l'anglais de spécialité et le secteur Lansam. Je ne vais pas me lancer là-dedans aujourd'hui. Ce qu'il y a de sûr, c'est que comme disait Paul, il y a un besoin de temps, comme toujours, il y a un besoin de maturation. On ne peut pas dire que l'anglais de spécialité soit tout nouveau en France, mais quand même, il est beaucoup plus récent que les autres disciplines de l'anglistique. Il faut en prendre acte. Il est vrai également qu'il y a une demande de clarification des objets. Donc ça, moi, en tant que nouveau président du GERAS, je l'ai entendu, et le nouveau CA avec lequel on travaille actuellement a affiché cela comme sa ligne principale, c'est-à-dire arriver à synthétiser, justement pour répondre aux questions qu'on entend autour de la table, c'est quoi cet objet, c'est quoi ce dont on parle, parce que jusqu'ici, il semble y avoir des objets, et la partie synthétique un peu en amont n'apparaît pas forcément aux gens qui ne sont pas encore intégrés dans les groupes de réflexion. Donc ça, c'est effectivement un travail qu'il y a là, et c'est aussi pour ça que je disais tout à l'heure, moi, l'option à l'agrégation, elle me paraît importante, ou au CAPES, et ou au CAPES, me paraissent importantes à terme, ne me paraissent pas de la première urgence. Ça, c'est vraiment un point sur lequel je veux insister. En revanche, cette formation au niveau licence, oui, elle est importante. Et là, on a tout à y gagner dans toutes les disciplines.
Si je peux me permettre, avant de passer la parole aux autres, parce que ça ouvre une autre réflexion qu'on va aborder en Assemblée générale cet après-midi, qui est que dans l'évolution des formations, il y a une autre dimension à laquelle il faut qu'on songe, qui est de former des gens qui sont capables d'enseigner une discipline dans la langue étrangère. Et je pense qu'on doit concevoir qu'une partie de nos étudiants devront dans l'avenir être orientés vers des doubles formations. pas formation d'anglais seulement, pas formation d'histoire seulement, ou formation d'ingénieur, que sais-je, mais une double formation pour qu'ils aient cette double assise intellectuelle, épistémologique, professionnelle, etc. Donc on y reviendra certainement dans les semaines qui viennent. Je crois que c'est assez fondamental pour l'avenir de la profession. Patrick Chézou.
Je vais faire quelques observations et réagir à ce que j'ai entendu sur l'évolution de l'agrégation. C'est-à-dire qu'il ne faut peut-être pas qu'on se trompe. On voit qu'au niveau des Prague, on est sur une très forte mobilité. Nous, on peut prendre l'université, de manière, on peut prendre l'université. Les Prague ne sont pas réputés faire de la recherche. Il y a un profil formation très chargé de formation qu'on vous a dit éventuellement. Il ne sera jamais. Il y a quoi ? Le profil recherche, ce n'est pas d'être. Si on en veut des Prague, c'est pour qu'il fasse 384 heures. Donc, c'est, on peut en plus leur demander de faire de la recherche. Si en plus on leur demande de faire de la recherche, c'est l'esclavage. Oui, mais à ce moment-là, les anciens chercheurs vont répondre que tout le monde fait de la recherche pour son enseignement. Donc, c'est pas un argument qu'on peut défendre. Par contre, l'argument que je mettrai en avant est que l'université doit défendre ses formations, non pas en fonction d'une sanction qui est donnée par une reconnaissance à l'agrégation qui reste un concours de recrutement du second degré. Que les formations d'université doivent se définir par rapport à des politiques de formation universitaire, accrochées à des politiques de recherche universitaire, déconnectées d'une agrégation qui, excusez-moi si je vous choque, mais en tout cas aux yeux des universités et du ministère, qu'une instance de sélection, de classement de candidats à l'enseignement secondaire. Alors nous avons besoin de Prague dans les universités, c'est vrai. Maintenant, recruter des Prague, comme ça se fait partout, comme ça se fait dans les universités, hein, recruter des Prague en fonction d'un profil qui est un profil enseignement, pas de problème. Mais recruter en fonction d'un profil qui est appelé à devenir un profil de recherche, ils sont tirés de l'escompte. Parce qu'on demande aux gens de faire 384 heures, et les universités se mettent en ordre de bataille pour essayer d'extraire les 384 heures de leur femme, qui est très important, parce qu'il y a des problèmes du budget. Mais par ailleurs, on ne peut pas non plus demander à ces gens de faire une recherche, dont je vous rappelle que pour les lettres de conférence, cette recherche a été réputée être le pendant de l'enseignement, c'est-à-dire valeur de 192 heures multipliée par 3, c'est le coefficient de multiplication, et c'est 1,6. Vous voyez bien que si jamais on fait le total, on obtient pour les Prague un service absolument insupportable. Je crois qu'il faut être bien clair en termes de ce que l'on attend des Prague dans les universités. Et donc, ce que l'on attend du concours de l'agrégation. Si c'est faire du concours de l'agrégation une espèce de sanction vers les emplois fléchés d'une manière prédominante, etc., avec une possibilité pour les dits recrutés de faire de la recherche et éventuellement d'accéder à des postes de maître de conférence qui ne seront pas créés dans ce secteur-là. Là, on va véritablement.
François Strichet, puis Albert Ham. Puis Jean-Louis Duché, puis madame. Allez. En essayant, s'il vous plaît, chacun d'être maintenant un tout petit peu plus rapide, parce que je vois l'heure qui tourne.
Oui, moi, c'est vrai, je voulais reprendre ce que vous avez dit sur l'enseignement et la recherche. Je crois qu'effectivement, enseigner, c'est quand même le faire de la recherche. Et premièrement, c'est vrai que c'est pas faire de la recherche, pas pour une thèse. Et moi, je dois dire que pour avoir pratiqué en 82 et encore maintenant, en séminaire, en dehors de mon université, ce qui m'a permis d'avoir un bon rebond sur mon travail en stage, puisque je suis apprécieuse. Je pense qu'on ne peut pas n'être que dans la salle avec ces étudiants, même si déjà, rien qu'avec les étudiants, il se passe quelque chose qui fait que soi-même, on s'enrichit d'eux et il y a une espèce d'échange, bien sûr. Mais moi, je ne vois pas comment on peut faire, effectivement, si on est profil enseignant, de faire une recherche en plus, ou alors on est obligé de mettre de côté ce. Enfin, je ne suis pas en train de faire quelque chose de grave, je veux dire, ce n'est pas possible. Mais si on a par contre un séminaire mensuel, deux séminaires mensuels, même hebdomadaires, de recherche ailleurs, c'est la seule chose. C'est vrai que forcément, on va désirer, c'est sûr, il faut encore pouvoir voir là où on se trouve. Moi, je suis arrivée, j'ai la chance de travailler avec des gens comme ça.
Je ne sais plus où on en est. Albert.
Mais peut-être quatre remarques en une phrase chacune. La première, c'est sur l'articulation option concours et enseignement en amont. Je ne suis pas sûr qu'il faille changer les matières au cours. Par contre, je suis sûr qu'il faut changer certains sujets. Dans la mesure où si on fait en licence, comme ça se fait dans pas mal d'universités, une approche, disons, une typologie linguistique des textes, hein, critique, discours, analyse, quelle que soit la méthode d'approche, on est sur des textes qui sont politiques, juridiques, voire médicaux, etc. Le problème, c'est que les sujets de l'épreuve linguistique à l'agrégation sont des textes littéraires. Et il suffirait de revenir à une pratique ancienne, ça a existé, y compris à l'écrit, de façon exceptionnelle, qui est d'autres textes que des textes de littérature. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup plus frustrant. On est beaucoup plus, les membres du jury sont moins brillants et ça discrimine beaucoup moins pour les candidats, mais ça pourrait bouger par ce biais-là. Deuxième remarque, c'est moi ça me gêne toujours qu'on oppose, disons, les enseignants l'ensemble et les autres, parce que ce que Bertrand a rappelé, c'est que c'est d'abord un enseignement de langue. Et donc que la dissociation, elle se fait après sur des critères qui sont effectivement de forme discursive et accessoirement de terminologie, mais ça peut s'enseigner en licence de façon relativement, je ne dis pas simple, hein, c'est à construire, mais on peut y arriver sans modifier les cours. Troisième argument, c'est l'articulation, disons, enseignants qui sont dans le supérieur et savoir ce qu'ils font dans le supérieur. Dans l'université, on a choisi une question qui est un petit peu différente, c'est d'essayer au maximum, et je pense que cette piste-là devrait être explorée, y compris par la voie réglementaire, de recruter des gens sur les statuts d'ATEM et non pas sur les statuts de TRAM ou de certifié, et d'obtenir, chaque fois que c'est possible, qu'ils fassent leur stage d'agrég dans l'enseignement supérieur. Ce qui est une façon beaucoup plus normale de leur permettre de faire de la recherche, ce qui résout en partie, mais je dis en partie seulement la pérennité, parce que ça ne signifie pas qu'il y a une garantie d'emploi sur place, mais ça signifie que si, par exemple, ils vont satisfaire l'obligation, une pression forte vers la mobilité, parce que nous sommes jugés sur notre capacité à recruter des gens qui viennent d'autres universités que la nôtre, et le ministère est attentif chaque fois qu'il évalue à la non-reproduction, à ce moment-là, donc, ils ont satisfait une mobilité, et du coup, il y a beaucoup plus de facilité à les recruter sur place, et c'est quand même intéressant pour un établissement d'avoir, je dirais cyniquement, essayé quelqu'un pendant 2-3 ans, mais pour les collègues, de voir s'ils sont capables de travailler avec les candidats, plutôt que de les recruter sur le dossier et un entretien à un quart d'heure, 20 minutes. Donc, on arrive à ça. Troisième argument, c'est l'argument de l'international. Moi, j'ai vu deux choses qui me laissent quand même présager que notre débat, dans 5 ans, va complètement changer de forme. Hein. Il y a eu une réunion à Nancy où le commissaire européen sur les langues, le précédent, pas celui qui a été nommé récemment, a réuni, en gros, tous les pays de l'Union européenne, et on a vu des tas d'exemples, donc en Roumanie, etc., de réorganisation sauvage des départements de langue traditionnels, où les gens étaient sommés de se reconvertir, quelle que soit leur spécialité, linguistique, littérature, etc., et de faire, en fait, de l'application LANSA, c'est-à-dire de se mettre au service des disciplines et des exigences du marché. Alors, on n'en est pas là, mais quelques discours sur la place des langues classiques, par exemple, bon, quand même alerté. Et puis, deuxième aspect, je rejoins quand même cette idée de bivalence qui est évoquée tout à l'heure. Ce n'est pas la bivalence au sens classique, histoire-langue, etc., mais la capacité pour un certain nombre d'entre nous d'être capable d'enseigner dans une langue une autre discipline.
Oui, et ça, c'est ça qui est important. C'est très important. Bon, voilà ce que je propose.
Il y a une dimension qui n'a pas été évoquée, le fait qu'avec les masters pro, on assiste en fait à des masters professionnels enseignement, des formateurs en langue vivante, en dehors des concours, et je me demande à quoi on les emploie. Donc on assiste d'une part à l'autonomisation de la didactique, ce qui pose quand même un problème, et deuxièmement, on forme des formateurs en langue dont je ne sais pas quelle est leur employabilité, en tout cas pas dans le système classique, que ce soit les établissements du secondaire ou les universités. Je n'ai pas d'exemple de recrutement réussi.
Madame, brièvement, et après ce que je vais vous proposer qu'on fasse, parce que je vois qu'il y a Jean-Louis Duchet qui m'a demandé la parole pour livrer les témoignages qu'il a annoncés tout à l'heure, Jean-Claude Bertin va intervenir, je propose qu'après l'intervention de madame, on revienne avec les premiers intervenants et que chacun donne ses éléments, enfin ce qu'il tire de la discussion qu'on vient d'avoir, parce qu'il est midi pile et nous devons tout arrêter dans une demi-heure. Voilà.
Sur les statuts de Prague, Perse, chercheurs, si vous pouvez appeler comme ça. Je crois que les universités sont totalement au courant du fait qu'elles recrutent des Prague et des Perse qui font de la recherche en parallèle. Parce que moi, je suis en fin de thèse, je parle de mon expérience personnelle. Donc, Perse en fin de thèse, je viens de recevoir un papier pour avoir une décharge d'enseignement l'année prochaine dans le cadre de ma thèse. Je la soutiens en octobre, je ne peux pas avoir cette décharge. En revanche, je compte passer l'agrégation, donc pour au sein de mes. Enfin, et va évoluer. C'est un corps de PR, mais passer de PR, c'est la Prague. Je ne peux pas avoir de décharge pour passer la rédaction. Il me semble que pour avoir un congé pour formation, il faut avoir 5 ans de titularisation, c'est ça ? 5 ans
de titularisation,
c'est ça ?
Oui.
J'ai des banques, alors, donc je ne peux pas donner ça non plus. La seule solution, c'est. Enfin, je ne sais pas, c'est déjà une solution.
Soutenez votre thèse, devenez maître de conférence. Mais vous aurez un an difficile.
Un an difficile.
Oui. Enfin, pas plus difficile que maintenant.
Non.
Alors, c'est
faisable. Mais on ne peut pas avoir déjà, justement, de passer l'allocation, même 50
heures. Non, mais ça, c'est les politiques d'établissement. Il peut y avoir un établissement qui décide qu'il fait ça. Ça, c'est tout à fait possible. C'est une politique de ressources humaines. Assez frais, c'est tout. Il faut que sur son budget, il décide, comme il le fait à l'heure actuelle pour les décharges, pour les thèses, c'est sur son budget. Il n'y a pas de dotation spécifique du ministère là-dessus. Le ministère a autorisé les universités qui avaient déjà commencé à le faire sans lui à continuer à le faire, c'est tout. Mais voilà, sur tout ce qui est formation, il y a un assez grand pouvoir. Il y a des choses qui s'appliquent au personnel IATOS qui peuvent aussi s'appliquer au personnel enseignant, si les établissements le veulent. Moi, je les y encourage. Bon. Mais bon. Alors, peut-être, pardon, Jean-Louis, vas-y.
Oui, alors, moi, je voulais dire que, à propos de la formation, du contenu de la formation, à la fois répondre à ce que la préoccupation d'Wilfried, reprendre ce que dit Albert, aussi, on a pour la formation des maîtres, là, le nouveau cahier des charges, avec, on le sait, des choses qu'on va devoir mettre dans la pré-pro, et puis évidemment les PLC2, y compris les agrégés des stagiaires, qui doivent avoir cette formation. Je suis d'accord avec Jean-Claude que ce n'est pas nécessaire forcément de mettre au concours, mais si on le met au concours, je suis d'accord avec Wilfried, qu'il faudrait que ce soit une capacité d'agrégation, mais on pourrait le mettre dans la partie formation, alors soit pré-pro, comme on le disait au niveau de la licence, comme disait Jean-Claude, et le mettre surtout parce qu'on a un levier d'action, maintenant les UFM vont être intégrés, aux agrégés stagiaires et aux PLC2. Alors, j'ai écrit à ma directrice du UFM à Poitiers pour lui dire les agrégés stagiaires, par exemple, on pourrait peut-être les former un peu à ça, parce qu'ils sont des candidats naturels à ce type de poste. Elle m'a dit qu'elle n'était pas contre. Et je compte bien lui faire part de nos débats pour dire voilà, j'en reviens à l'intérêt de la zonicisme, et est-ce qu'on pourrait faire quelque chose dans notre académie, et puis en parler à la CDU et à la CDI-UFM ensuite. Bon. Alors, moi, j'ai un témoignage là d'une collègue Prague, quand j'ai envoyé mon message. Qui est, alors ça complète le témoignage de la collègue qui est en fac de droit, elle est une école d'ingénieur, donc on a, mais ça recoupe. Elle me dit, voilà maintenant 6 ans hein, que j'enseigne l'anglais des élèves ingénieurs. Dans l'ensemble, ça se passe bien, il y a des jours avec et des jours sans, et je me demande pourquoi je n'arrive pas toujours à faire mon métier comme j'aimerais pouvoir le faire. Et la réponse à laquelle je suis arrivé est la suivante, je n'ai nullement été formé à faire ce que je fais. Je tâtonne beaucoup. Et pourtant, on peut estimer que j'ai suivi la voie royale pour faire ce que je fais. ENS Cachan, agrégation d'anglais, DEA de Bordeaux 2. Bon, j'en dis pas plus.
Oui, non plus pour nous, c'est un langage très codé, mais faut-il le décoder ?
Donc, normalienne, hein, normalienne à Cachan, c'est
vrai. À Cachan, qui a une orientation.
Qui a une orientation quand même anglais de spécialité. Agrégée d'anglais, option linguistique, qui a une très bonne agrégation. Elle a fait le DEA de Bordeaux 2.
Bordeaux 2, qui est en langue de spécialité.
Voilà. Bon. Alors, elle dit, je ne suis pas sûr, comme tu sembles le penser, que tous les instituts, tous les établissements d'enseignement supérieur qui écrivent anglais pour, et puis une autre discipline, aient une idée nette de ce que cela recouvre. Je pense en particulier à une de mes camarades de promotion qui assure des vacations dans un IUT. Les seules instructions qu'elle a reçues en arrivant, ça a été « faites ce que vous voulez ». Il faut que les étudiants puissent se débrouiller en anglais Voilà. Alors, donc, ça pose le problème du CECR, hein, c'est-à-dire qu'est-ce que, et donc de l'anglais de la communication générale en même temps que l'anglais de spécialité. Là, je rejoins évidemment ce que disait Jean-Claude tout à l'heure sur l'ensemble des missions de l'ANSAD. Il y a les deux choses. Et ce qu'on disait aussi un peu plus tôt dans la matinée, qui est que la langue de spécialité, c'est d'abord toute la langue plus la spécialité. Bon, donc, elle pose la question de savoir avec moi la définition des objectifs de l'enseignement des langues dans ce secteur-là. Alors, je constate que dans le domaine de la gestion, par exemple, les collègues qui définissent les profils à l'université sont bien plus au fait de ce qu'ils veulent. Hein, les gestionnaires, les économistes, et puis ceux qui sont moins au fait, c'est dans le secteur technologique, peut-être, et surtout aux scientifiques. Elle ajoute, il y a aussi autre chose que tout le monde semble prendre pour acquis, la maîtrise des outils technologiques. Or, je considère que j'ai dû apprendre à utiliser les technologies, les nouvelles technologies, sur le tas. Quand je suis arrivé à mon poste, je ne savais même pas comment relier un magnétoscope à une télévision. Plus tard, j'ai dû apprendre aussi par moi-même à récupérer des vidéos sur Internet. Et alors, elle compare sa situation à d'autres de ses camarades d'autres disciplines de l'ENS de Cachan, qui, eux, au contraire, ont été de plein pied entre leur formation et leur métier. Et elle dit, nous, en anglais, on était en rupture complète. Hein. Et elle dit, mais de toute façon, là où je suis dans le secteur lançable, quand j'enseigne l'anglais, il faut évidemment que j'utilise tous ces outils de communication en mode zero failure. Parce que dans un cours d'une heure et quart, je ne peux pas passer un quart d'heure à régler des problèmes techniques que je n'ai pas maîtrisés d'avance. Hein. Elle dit ben, que ça, on ne l'a jamais appris dans la formation. Alors, sur les gens, j'en ai un autre, comme ça, du même genre, c'est des témoignages de gens qui disent la formation sur les objectifs de la formation en langue dans le secteur d'ANSAD, même si on apprend des choses utiles à bord de deux, sur le terrain, les établissements ne savent pas comment fixer ces objectifs parce qu'il y a un manque de culture des établissements sur ce que c'est que la formation en langue. Et puis, elle dit, sur le plan formation technologique, et d'autres secteurs qu'on pourrait ajouter, puisque le secteur d'ANSAD, ça regroupe un certain nombre de préoccupations, aussi bien didactiques que scientifiques, pour lesquelles, elle dit, on est démunis. Voilà.
Bien. Il y aura un test pour tous les participants. S'ils veulent faire récupérer l'enregistrement audio sur Internet de la table ronde, ben, ils pourront... Qu'est-ce que j'enregistre ? On le mettra sur le site de la SAES. Bon. Marie-Pierre ?
J'ai pas énormément de choses à rajouter. Peut-être une piste, je pense qu'il ne faut pas être naïf, comme dit Albert Ham. Le rapport de force n'est pas nécessairement favorable. Il peut y avoir des évolutions qui touchent aussi, ce n'est pas seulement les prags. Quoi. Derrière, c'est les maîtres de conf qui sont concernés. Absolument.
Les profs aussi. Oui.
Et les profs aussi, peut-être un peu moins, mais enfin, il y a une...
Ils sont plus vieux.
Il y a une pyramide, bon. Peut-être une des pistes que j'avais, c'est que bon, la discipline, elle est aussi en concurrence avec notre discipline. Il y a aussi la possibilité qu'on demande aux enseignants d'enseigner en anglais d'autres disciplines. Et donc peut-être une des marges de manœuvre où on arrive à tenir ensemble et la formation à l'anglais de spécialité, enfin on a ajusté plus les étudiants à leur futur métier, en même temps sans rien lâcher des exigences des études supérieures en anglais. Il faut essayer de trouver, j'ai juste quelques idées, mais je pense qu'il doit y en avoir d'autres, hein, oui, on peut travailler dans ce sens-là. Par exemple, renforcer la linguistique, ça aide aussi bien à former des gens qui seront plus à même de comprendre la langue de spécialité, dans le supérieur, renforcer la linguistique. Mais aussi, par exemple, apprendre à utiliser des tableaux Excel ou des outils technologiques, des logiciels d'analyse de discours ou autres. C'est aussi bien utile pour les futures études de civilisation, de langue et littérature, peut-être pour apprendre à utiliser des outils qui s'utilisent dans d'autres disciplines, la sociologie, la science politique, enfin pour celles que je connais, en même temps sûrement aider aussi les prags à maîtriser mieux certaines des choses auxquelles ils seront confrontés.
Jean-Claude Bertin.
C'est difficile de synthétiser tout ça. Les derniers points que je vais évoquer, là aussi je vais reprendre des touches par touche ce que j'ai pu entendre et essayer de d'abord, la demande internationale, la réorganisation un peu sauvage ou pas des enseignements traditionnels, ce que je vais résumer sous la forme de la pression économique sociale, politique, qui est très forte depuis quelques années. C'est une société dans laquelle on est, rentré de plein pied, tout doit être rentable, etc. Je ne fais pas de dessin. On est dans cette configuration-là, et l'anglais est en plein au milieu, parce qu'évidemment, l'anglais, il sert aussi de langue internationale. Et je fais exprès de dire « il sert aussi d'eux ». C'est pas à vous que je vais convaincre en disant qu'il y a quand même des sacrés problèmes de communication, de langue, derrière cet aspect purement... qui paraît très simple quand on entend certains de nos politiques nous dire qu'il faut absolument former nos étudiants à l'anglais du business, et on sait très bien ce que ça veut dire au niveau réduction de ce que cette image peut faire. Et ça, on s'y oppose. Et il faut bien marquer, et on ne marquera jamais assez, que ce que l'on appelle l'anglais de spécialité et ce qui doit rester l'anglais de spécialité au niveau universitaire, c'est bien une formation humaniste. Ce n'est pas uniquement ce que l'on voudrait que ce soit. Ça, c'est vraiment un point sur lequel j'insiste très fort. Deuxième point que je voudrais évoquer, parce que j'ai fait exprès finalement de ne pas en parler, parce que bien sûr j'ai cette connotation langue de spécialité, mais je suis aussi didacticien de la langue de spécialité. J'ai fait exprès de ne pas parler de cet aspect didactique, mais qui finalement est naturellement ressorti. Simplement pour préciser qu'il y a deux aspects là aussi. Quelqu'un tout à l'heure a parlé de l'autonomisation de la didactique comme étant un problème. Ça peut l'être si on oublie que la didactique ne peut pas être séparée de son objet. Ça, c'est quelque chose à laquelle je tiens moi aussi. On ne peut pas parler d'une didactique. Bien sûr, il y a une réflexion didactique en dessus des disciplines. Ça reste quand même quelque part une didactique qui va retomber au niveau disciplinaire à un moment. Et on a des allers-retours sans arrêt. Donc la réflexion didactique que l'on peut avoir dans le cadre de nos formations en anglais est une formation qui reste, là aussi, entièrement coupée, entièrement, là je me fais l'écho de ce que j'entends parfois, entièrement reliée à l'objet qui est le nôtre, qui est commun au nôtre. Et finalement, quand on a rajouté également tout à l'heure l'aspect technologique, l'aspect formation, là j'amène une deuxième chose, la recherche didactique ne recouvre pas entièrement la notion de recherche pédagogique. Ce ne sont pas exactement les mêmes notions là non plus. Donc, en fin de compte, la configuration est beaucoup plus complexe que souvent les gens le pensent. C'est pour ça aussi qu'il y a un brouillage d'image de ce que l'on fait dans ces domaines-là, dans ce qu'on appelle généralement maintenant la quatrième voie linguistique. C'est parce qu'effectivement, on a des perspectives d'approche différentes sur un objet qui est commun. C'est là où on a besoin de clarifier, effectivement, mais même entre nous, des fois. C'est pas un scoop, je veux dire, de dire ça. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être fait, y compris donc par rapport à une remise en cause des enseignements, mais pas de façon révolutionnaire, simplement de façon à ajouter quelque chose de complémentaire et qui vienne. C'est finalement ce qu'avait compris il y a quelques années Michel Perrin et l'équipe qui avait contribué à créer tout ce travail-là. Mais je crois qu'elle avait été, si je me souviens bien, c'est de comprendre qu'il y a un lien étroit entre cette notion de langue en tant qu'objet, cette notion de réflexion didactique, la culture qui va avec, et éventuellement les outils, mais tout ça en étant coordonnés les uns avec les autres. Et là, on reste bien bien. On reste bien angliciste, on reste bien linguiste dans notre approche. Et c'est dans ces aspects-là qu'on peut aller dans les nouvelles formations, et je finirai là-dessus, et ces nouvelles formations, donc elles peuvent apporter des réponses pédagogiques d'un côté, mais aussi, donc là on peut imaginer par exemple Master Pro, même si actuellement on a dit plutôt qu'il faut réunir les deux, et d'un autre côté, réflexion plus accès recherche. Donc on est bien dans la logique qui est la nôtre, qui est commune. Le reste, bon, donc voilà.
Oui, un petit mot, on a parlé tout à l'heure de l'ambiguïté du statut de Prague et aussi l'ambiguïté de ce qu'est l'agrégation, parce qu'officiellement, en effet, l'agrégation est un concours de recrutement du secondaire, dans la pratique, ça n'est pas du tout, c'est en théorie, mais dans la pratique, en fait, comme il n'y a que 145 postes à l'agrég, ce n'est pas suffisant pour couvrir, je crois, les besoins d'enseignement supérieur. Si on inclut les BTS, les UT, les classes préparatoires, les universités diverses en droit, en lettres, etc., je crois qu'il y a plus de 145 demandes par an de professeurs agrégés. Donc, dans les faits, la grande majorité des agrégés se retrouvent en supérieur. Alors, il faut se réfléchir à ça.
Bon, oui, non, Paul, je vais essayer de donner quelques éléments de Enfin, pas de conclusion, parce qu'on a voulu ouvrir un débat, c'est pas aujourd'hui qu'on va le clore, hein, ça c'est bien clair. On commence un travail là, de réflexion là-dessus, sur lequel il faut qu'on aille relativement vite, oui. Parce qu'il y a une pression des événements, mais en même temps, il ne faut pas qu'on fasse dans la hâte qui fait qu'on irait vers les nouvelles solutions. Moi, je pense qu'il y a une première réflexion qui est que, il me semble, Paul Wolsick l'a rappelé tout à l'heure, nous souhaitons systématiquement que les enseignants du supérieur soient des enseignants-chercheurs. Lorsqu'ils ont le statut de Prague, nous souhaitons que les universités leur donnent le moyen, par les systèmes de décharge quand ils sont en thèse par exemple, leur donnent le moyen d'être véritablement des enseignants-chercheurs. Nous souhaitons que lorsque on les recrute pour créer de toutes pièces un enseignement qui n'existait pas avant et auquel ils n'ont pas été formés, je pense qu'il serait normal qu'ils bénéficient d'une décharge horaire, pour, ne serait-ce qu'au titre de l'organisation administrative de tout ça, on peut l'appeler comme on voudra. Mais je pense que les moyens légaux existent. Je ne trouve pas normal qu'on dise aux gens « Soyez des pionniers 48 heures sur 24 ». Vous voyez, il y a... Voilà. Les IUT le font plus facilement que les UFR, disons, en général. Hein. Les IUT ont plus de souplesse de gestion sur ce plan-là et des moyens autres. Bon, mais les UFR ont plus de mal à le faire. Donc nous, on souhaite tout ça. Mais ça, c'est dans le court et le moyen terme ou dans l'immédiat. Mais au-delà, je pense que la question qui se pose, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, ce que Bertin a évoqué aussi, ce qu'Albert aussi a évoqué, ou Jean-Louis, c'est la question finalement de la possibilité pour les anglicistes, à partir d'un socle commun qui est bien celui... de la culture des anglicistes, c'est-à-dire quelque chose qui les met au même niveau de culture sur le monde anglophone qu'un anglophone cultivé, hein, tout en gardant leur culture d'origine, qui peut être autre qu'anglophone, hein, francophone par exemple, par hasard, hein, qui les met à même, à partir de ce socle, de construire une spécialisation. Cette spécialisation peut être dans un domaine de type civilisation, littérature, linguistique classique, mais elle peut être aussi dans un domaine autre, d'où la question des doubles formations. Et je pense qu'il vaut mieux qu'on aille vers l'idée que ces nouvelles demandes supposent un enrichissement des formations qui sont proposées, plutôt que de dire on va rabaisser l'exigence dans la définition des postes en demandant à des généralistes moyens de boucher tous les trous possibles et imaginables. Ce qui est ce que nous demande, ce qui est la pression sociale que nous subissons, qui va dans ce sens. Je pense qu'il vaut mieux qu'on insiste sur l'idée, il faut au contraire, pour répondre pleinement aux besoins, aller vers un enrichissement des formations. Alors je m'excuse, moi aussi j'ai fait un peu d'histoire, il me semble qu'on retombe exactement sur ce qu'ont fait les engineers, et non pas les ingénieurs, hein, les engineers du monde anglophone dans les années 1850, lorsqu'ils ont découvert que toute une série de spécialités éparses, genre Millwright, Smith, whatever, ou Wheelwright, between a Millwright and a Wheelwright, you know what's the difference? Bon. Étaient toutes des spécialités qui étaient requises, mais requises en combinaison avec d'autres, et ont forgé un nouveau, ont inventé un nouveau métier qui était la combinaison de l'ensemble de ces spécialités, qu'on a appelé engineer. Bon. Et qui ont, disons, défendu leur statut bec et ongle et sont devenus les rois du monde du travail pendant un certain temps. Donc je pense qu'il faut plus qu'on aille dans le sens de cet enrichissement plutôt que dans le sens d'un appauvrissement vers le bas avec une réduction de l'exigence culturelle et scientifique de nos formations. Oui.
Veut faire de l'international, nous entendons, se dépose de se former
on le
fait. Aucune autre discipline, dans le sens, qui serait prête à servir de vecteur à une autre. Autre élément pour rentrer dans les fonds à servir, je crois que on a pas la rentabilité, on est tous à la rentabilité, mais l'anglais, à la différence peut-être de l'allemand, ou certaines langues autre part, l'anglais est rentable. L'anglais a une forte demande de l'anglais. Nous n'avons pas, pour imposer notre discipline, à nous faire chimiste, biologiste, je ne sais pas, différent.
Il est, je m'excuse, mais il est midi 20. Il faut 30 minutes. Nous concluons. Oui, Françoise.
C'est vrai que ça va faire un gros défait. On ne veut pas être rentable. Parce que si par notre enseignement, par ce qu'on est, tout ce qu'on fait, on donne une rente à nos étudiants en leur donnant cette langue et la richesse que comporte toute langue, et celle-là en particulier, puisque nous sommes dans le langue 6, alors on n'a vraiment pas perdu de temps. Et on est humaniste, enfin, ça ne serait pas du tout contraire pour moi. On en fait des citoyens, c'est ça qu'on veut faire aussi.
Non, mais moi, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas être rentable. Je pense qu'il faut qu'on montre à quel point nous sommes indispensables à la société qui nous environne. Ça, j'en suis convaincu. Et sur le danger que vient de souligner Patrick Jezot, j'en suis totalement conscient. Mais il y a un danger bien plus grand à ne faire aucun effort pour essayer d'intégrer les demandes de double formation. Si nous ne le faisons pas, si nous ne le faisons pas nous, ils le feront sans nous. Voilà. C'est ça la question aussi. Bon, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on conclue avec Paul Wolsick, notre vice-président recherche de la SAES, qui est déjà intervenu au début et qui va nous donner le mot de la fin. Il ne le savait pas, mais voilà. C'est un test.
Voilà. Je peux passer sur le calendrier des choses, même si nous ne sommes pas d'accord. Mais peut-être que je vais passer, parce que je crois qu'il faudrait effectivement
quelques pistes. Voilà, moi, écoutez, voilà ce que je vais proposer. Enfin, on va en discuter plus longuement dans les instances diverses. Je vais le reproposer cet après-midi à l'Assemblée générale. Mais ce que je propose, c'est que cette discussion se prolonge, se continue. Je vais en faire un petit compte-rendu écrit pour ceux qui ne savent pas télécharger le fichier audio.
Mais il faut qu'on puisse le podcaster quand même. Hein.
Voilà, qui sera publié dans le... Dans le... Non, les Canadiens ont inventé un mot pour ces balado-chargés.
Balado-chargés.
Il faut pouvoir le balado-charger. Donc, un petit compte-rendu écrit qui sera dans le bulletin de la SAES. Et je pense qu'on y reviendra à la journée d'octobre. Et peut-être que je demanderai aux petits noyaux de ceux qui étaient là de se constituer peut-être une espèce de groupe permanent auquel on associerait effectivement des collègues qui ont été présidents d'établissements, qui ont une vision... De la question sous l'angle à la fois de la gestion, mais aussi de notre discipline, puisqu'ils en sont eux aussi. Je trouve que ce serait intéressant. Et peut-être des collègues comme vous, qui avaient été impliqués pendant un certain nombre d'années dans la chose, qui ont un regard que je trouve tout à fait intéressant là-dessus. Alors, ce que je vous demanderais, c'est que ceux qui sont intéressés à poursuivre la réflexion là-dessus, qui me contacte, c'est très facile, mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone portable figure partout. Voilà, donc je suis facile à trouver. Si je ne vous réponds pas immédiatement, ça peut être que vous êtes tombé dans les 300 spams que je n'arrive pas à trier chaque jour. Non. J'essaierai de distinguer le bon grain de l'ivresse sans faire de catastrophe. Hein ? Oui, mais ils sont très peu efficaces, excuse-moi, j'utilise ça, ça m'en enlève 5 sur 300 chaque jour. Bon, et puis, voilà. Voilà. Voilà, et qu'on le fasse continuer à travailler comme ça d'une façon un petit peu détendue. Hein, on n'a pas d'os à ronger entre nous. On vise tous à peu près au même but globalement. Et voilà. Je vous remercie beaucoup.